Koyamopti, 21h à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. La Méditerranée est un mouroir pour les migrants. Depuis janvier, plus de 3000 d'entre eux ont péri dans l'océan. La fondation Mo Ibrahim a publié son indice de gouvernance 2014 des pays africains.
Voir des pays qui étaient en situation difficile comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, a progressé rapidement et a progressé de manière équilibrée est tout à fait encourageant.
Nous ferons le point avec Nathalie Delapalme, directeur exécutif de la fondation Mo Ibrahim. Rubrique santé, focus sur les maladies cardiovasculaires au Cameroun. Et enfin, l'insécurité routière est toujours très grande en Afrique. Un forum régional a été organisé à Mopti, au Mali. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Les audiences publiques de victimes et bourreaux d'une décennie de crise en Côte d'Ivoire qui avait débuté il y a 3 semaines à Abidjan ont pris fin ce mardi. J'ai terminé le plan d'action que j'avais donné au chef de l'État, a dit le président Charles Konambani, qui a ajouté que le mandat de la commission qu'il préside, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a pris fin dimanche dernier. 80 personnes auront au total été entendues depuis le 8 septembre, selon Charles Konambani. Et faute de couverture médiatique, les témoignages n'ont pas eu l'écho et l'effet souhaité en Côte d'Ivoire. En Égypte, condamnation de 68 partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Ils écopent de peine allant de 10 à 15 ans de prison pour participation à une manifestation violente l'an dernier. Mohamed Morsi a été chassé du pouvoir en juillet 2013 par l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi, qui était à l'époque le chef de l'armée. Depuis sa destitution, ses partisans sont la cible d'une répression qui a fait près de 1400 morts et quelques 15 000 prisonniers. En Libye, les milices qui contrôlent Tripoli et Benghazi ont dénoncé aujourd'hui le dialogue lancé hier par l'ONU en vue de mettre fin à l'anarchie institutionnelle. L'ONU a réussi lundi à réunir pour la première fois des députés libyens rivaux. À l'issue de cette réunion, ils ont lancé un appel à un cessez-le-feu sur tout le pays. Fajr Libya, qui contrôle Tripoli, a répondu qu'elle continue ses opérations militaires. Cette coalition a déjà formé un gouvernement parallèle. Procès de Uhuru Kenyatta à la Cour pénale internationale. La Cour a rejeté une requête visant à exempter le président kenyan d'assister à une audience à La Haye le 8 octobre. Le président Kenyatta, âgé de 52 ans, est soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007 à 2008 qui avaient fait plus de 1000 morts. En Afrique du Sud, le procès pour corruption intenté à Julius Malema a été reporté au 3 août l'année prochaine. L'ancien président de la Ligue de la jeunesse du parti ANC est mis en cause dans une affaire de détournement de millions de fonds publics. Jacques Aristide.
Le controversé opposant sud-africain de 33 ans est accusé d'avoir reçu quelque 392 000 dollars en 2009 provenant d'un contrat gouvernemental de plus de 4 millions de dollars avant même qu'un appel d'offres ne soit publié. L'argent était destiné aux routes de la province natale de Julius Malema. Il nie les accusations qui sont selon lui politiquement motivées. Exclu de l'ANC en 2012, le leader du nouveau parti anticapitaliste Economic Freedom Fighters avait vertement critiqué le président Jacob Zuma il y a un mois au Parlement, le sommant de rendre l'argent public qu'il a utilisé pour rénover son ranch. Malema devait être jugé jusqu'au 31 octobre. Le parquet expliquait le renvoi par l'indisponibilité de certains avocats. Le député pourrait perdre son siège au Parlement s'il est condamné. La procédure risque toutefois de durer très longtemps dans la mesure où la Constitution sud-africaine prévoit de nombreuses voies de recours.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Grande-Bretagne a mené aujourd'hui ses premières frappes aériennes contre des cibles de l'État islamique en Irak. Des avions de chasse britanniques ont bombardé un poste d'armement lourd qui menaçait les forces kurdes avant d'attaquer un pick-up armé de l'État islamique en territoire irakien. C'est ce qu'a indiqué le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon. Deux attaques qui interviennent après le feu vert donné vendredi par les députés à une intervention militaire de la Grande-Bretagne au sein de la coalition menée par les États-Unis et qui comprend des militaires arabes et européens. Et ici aux États-Unis, témoignage aujourd'hui au Congrès de la chef du Secret Service en rapport avec l'intrusion ce mois d'un individu à la Maison-Blanche, Mme Julia Pearson, dont le service assure la protection de la famille présidentielle et des dignités étrangères, a qualifié l'incident d'inacceptable. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le rapport que l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a remis hier à l'ONU. Cette année, plus de 4000 migrants ont péri en tentant de rejoindre un autre pays, dont 3000 rien qu'en Méditerranée. 2014 devient ainsi l'année la plus meurtrière, loin devant 2011, qui avait enregistré 1500 décès suite au printemps arabe. Félix Yepassis Zembrou.
Depuis 20 ans, traverser la Méditerranée constitue le périple le plus mortel pour les candidats à l'immigration. L'OIM a enregistré la mort de plus de 4000 migrants dans le monde, dont 3072 en Méditerranée. 2014 est l'année la plus meurtrière, loin devant le pic de 2011, durant le printemps arabe, lorsque 1500 décès ont été enregistrés. Selon les statistiques publiées par l'OIM, la plupart de ces personnes sont mortes par noyade, par asphyxie, de faim ou de froid. Les victimes, dans leur grande majorité, étaient originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis l'an 2000, l'océan séparant l'Europe du continent africain a englouti plus de 22 000 candidats à l'immigration. Selon l'OIM, au moins 40 000 migrants au total sont décédés en tentant de gagner l'Europe, les États-Unis, l'Australie ou d'autres pays dans le monde.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 101.7 FM à Bangui. La Fondation Mo Ibrahim a publié hier son indice de gouvernance annuel des pays africains. Si certains pays ont progressé, comme la Guinée, le Niger ou le Zimbabwe, le bilan reste mitigé car la Fondation note un ralentissement dans les pays en tête de liste, comme l'île Maurice, le Cap-Vert ou le Botswana. Nathalie Delapalme, directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim, nous détaille les grandes tendances de l'indice 2014.
Les principaux résultats montrent que, au niveau général sur l'ensemble du continent, le niveau global de gouvernance continue à progresser entre 2009 et 2013, donc au cours des 5 dernières années. Ce qu'on constate, si on regarde un peu plus en détail les résultats, c'est qu'au cours des 10 dernières années, les principaux moteurs de cette tendance ont changé. Alors d'abord, au niveau des pays, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui ont progressé le plus rapidement, qui ont vraiment accompli un parcours tout à fait remarquable au cours des 5 dernières années, sont des pays qui, jusqu'à présent, se situait et se situe encore d'ailleurs dans la deuxième partie du classement, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Zimbabwe. Ces quatre pays affichent vraiment une progression tout à fait remarquable qui est essentiellement tirée par les indicateurs relatifs à la participation et aux droits de l'homme.
Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris parmi ces pays ?
Non, enfin, qui ne nous ont pas surpris, qui nous paraissent encourageants. Hein. C'est vrai que voir des pays qui étaient en situation difficile, comme la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, la Côte d'Ivoire et la Guinée qui sortent toutes les deux d'une période un peu difficile, et le Niger qui n'a pas une situation de départ facile, la capacité de ces pays, dans le fond, c'est à progresser rapidement et à progresser de manière équilibrée, est tout à fait encourageante. Sur le Zimbabwe, la progression du Zimbabwe s'explique davantage par les progrès tout à fait conséquents accomplis en matière de développement humain. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun d'entre eux a atteint son maximum. Il reste encore une grande marge d'amélioration, bien sûr, et tous partent d'assez bas. Mais la tendance est vraiment encourageante. À l'inverse, les pays qui font la course en tête depuis pratiquement le début de l'indice, enfin même depuis le début de la création de l'indice, l'île Maurice, le Cap-Vert, le Botswana, l'Afrique du Sud et les Seychelles, hein, dans cet ordre. Les cinq pays du peloton de tête restent dans le peloton de tête, continuent à afficher un parcours positif, mais en revanche montrent dans au moins une des quatre catégories de l'indice des signes de ralentissement, voire de diminution, qui méritent qu'on y prête attention et qui montrent que rien n'est jamais acquis en matière de gouvernance, et qu'il faut continuer à se battre sur l'ensemble des domaines.
Comment vous expliquez cette sorte d'essoufflement, hein, vers une bonne gouvernance ?
Alors, on pourrait dire l'inverse de ce qu'on a dit pour les pays qui ont beaucoup progressé, c'est que ce sont des pays qui partent déjà de haut, hein, parce qu'encore une fois, ils se situent depuis longtemps en tête de l'indice. Donc, évidemment, la marge d'amélioration est sans doute plus faible. Je dirais les économies d'échelle sont plus difficiles à acquérir. Il n'en reste pas moins que, en matière de gouvernance, comme d'ailleurs en matière de discours plus général sur les dynamiques africaines, je crois qu'il est important de garder la tête froide et de considérer qu'il y a encore de nombreux défis à relever, que la route est encore longue si on veut définitivement ancrer ces bons résultats dans la durée.
Nous retrouverons demain la seconde partie de cet entretien avec Nathalie Delapalme, directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim. Rubrique santé, maintenant en Afrique centrale, 80% des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ignorent leur pathologie. Des patients qui fréquentent en majorité des guérisseurs traditionnels. Reportage à Yaoundé du correspondant du service anglophone Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
À Yaoundé, la capitale camerounaise, 10 patients attendent chez Fukugang Eric, un guérisseur traditionnel qui se dit spécialiste des maladies cardiaques.
Quand quelqu'un vient nous dire qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas faire des mouvements forts ou du sport, qu'il a parfois des douleurs dans le cou et parfois une paralysie qui pourrait l'aliter, nous avons certaines plantes médicinales que nous donnons.
Parmi les patients, Nji Mary, une dame de 62 ans qui souffre d'hypertension. Elle dit avoir été guérie par le tradipraticien après plusieurs visites sans succès à l'hôpital. De nombreuses maladies cardiaques traditionnellement associées aux pays développés sont en augmentation en Afrique, souligne le docteur Eloge Yangnini de la Fondation camerounaise Cœur.
On a établi que dans le monde, il y a plus d'un milliard de personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Et chaque année, il y a environ 30 millions de nouveaux cas notifiés. Mais par contre, en Afrique, la situation semble être encore plus alarmante. On dénombre près de 50% des sujets adultes ayant des pathologies cardiovasculaires.
Le docteur Emmanuel Tajou de la Société camerounaise de cardiologie relève de son côté que l'augmentation des maladies cardiaques est principalement due au mode de vie urbain en Afrique subsaharienne.
Nous avons maintenant des voitures, nous ne pratiquons plus de sport, nous fumons, nous buvons, sans compter le stress. Autant de facteurs qui contribuent à la hausse des maladies cardiovasculaires.
Pour le docteur Yangnini, les personnes les plus menacées sont les pauvres.
N'attendez pas parce que nous avons l'habitude de trop attendre. Il faut aller à l'hôpital. Nous avons cette formation. La bonne démarche, c'est de rencontrer un médecin le plus vite possible. Le plus important, c'est de consulter un médecin.
D'où le thème retenu pour la journée mondiale, c'est-à-dire créer un environnement sain pour le cœur. Parmi les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, la réduction de 35% de la consommation de sel d'ici 2025. Les maladies cardiovasculaires représentent environ 10% des décès en Afrique et sont la principale cause de décès chez les personnes de plus de 45 ans.
Nous rendons au Mali pour terminer l'émission. Plus de 1000 accidents de circulation et 19 décès, c'est le bilan de l'année 2013 à Mopti. Des chiffres en hausse qui ont poussé l'ANASER, l'Agence nationale pour la sécurité routière, à organiser un forum régional sur la question. Notre correspondant Mamoudou Bokoum a assisté à ce forum.
La route continue de faire des victimes dans la région de Mopti. En 2013, 1089 accidents de circulation ont été enregistrés à l'hôpital régional Soumine Dolo, sur lesquels 19 personnes ont trouvé la mort. D'où l'organisation de ce forum régional sur l'insécurité routière. Capitaine Mamadou Sidiki Konaté, directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASER.
Cette organisation du forum de sécurité routière a pour objet de faire l'état des lieux de l'insécurité routière dans la région de Mopti pour prendre des solutions adéquates pour éradiquer le fléau. Mais ce forum vise des objectifs spécifiques qui constituent d'abord de s'enquérir des préoccupations réelles des acteurs, les encourager à mieux s'organiser dans la lutte contre l'insécurité routière. Le deuxième point, c'est être beaucoup plus proche de la cible, pour une meilleure sensibilisation. Vous savez qu'on ne peut pas aller sans la sensibilisation. Le troisième point, c'est recenser les problèmes liés à l'insécurité routière et proposer des solutions. Et le quatrième point, c'est identifier avec l'ensemble des acteurs présents les actions prioritaires qu'il faut poser sur le terrain en vue de trouver une solution adéquate à ce problème d'insécurité routière. Vous savez que ça ne peut pas aller sans l'implication de tout le monde. Les collectivités, l'ensemble de la société civile, tout le monde doit être impliqué et d'une manière très coordonnée pour que l'insécurité routière puisse vraiment être éradiquée par une cinquième région.
En marge de ce forum, une formation est organisée à l'intention des chauffeurs et leurs apprentis sur le code de la route. S'agissant des policiers et des gendarmes, ils doivent apprendre comment bien remplir le BAC, c'est-à-dire le bulletin d'analyse des accidents constatés. Plusieurs facteurs provoquent les accidents dans la région de Mopti, précise le gouverneur Kamankani.
La région de Mopti se caractérise par les excès de vitesse, le transport mixte, la surcharge, la divagation des animaux sur la route, le non-port du casque, etc., etc. La lutte contre l'insécurité routière requiert des actions multisectorielles. Transport, route, justice, communication, santé, secours, collectivité, forces de sécurité. C'est pourquoi j'en appelle à une véritable prise de conscience collective et individuelle des populations de la région de Mopti. Toutes les sensibilités doivent se mobiliser pour cette cause.
Selon des statistiques, 85% des accidents sont dus au comportement humain, état des véhicules et surcharge 7%. L'état et l'environnement des routes occupent les 8%, d'où cet appel de l'ANASER.
Le premier message, je veux dire, que moi j'ai envie d'envoyer, c'est le message de prudence. Qu'on soit instruit, qu'on soit analphabète, qu'on connaisse les règles de la situation ou pas, la prudence est la mère de tout. Un. De deux, on demande à tout le monde de respecter les règles de la situation routière. On ne peut pas respecter une règle de la situation routière lorsqu'on ne la connaît pas. Il faut chercher à connaître les règles de la circulation routière. Et j'invite tout le monde à être courtois sur la route. Acceptons-nous sur la route là. J'invite tout le monde également à porter le casque. Le port du casque profite d'abord à celui qui est en train de porter le casque. Franchement, c'est ce qu'on demande à toute la population, particulièrement les jeunes et singulièrement les scolaires.
Mamoudou Bokouma Mopti pour La Voix de l'Amérique.
Je suis venu en mission. Plus cher que le géant, c'est cadeau. Je suis venu pour tuer, te pose plus de questions. Le feu dans les pieds, man, est-ce que tu ressens la pression? Les mains dans les airs comme si j'appelais le vent. Je veux juste Elan Chamel.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Wojtek Journiac. Au micro, Clermont Ragibourg. Et nous nous quittons en musique avec le dernier single de Jirio du Gabon. Il sort ça. Jirio qui a lancé un vidéo challenge. Le défi, réaliser la plus belle chorégraphie sur ce titre. Les résultats sont en ligne sur sa page Facebook Jirio officiel.
La bouille à marée, comme si je n'ai pas bel air à midi. L'allure est carrée, j'ai le pas plus insolent que l'orgueil d'un bindi.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique, ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Dans tous les jours et la jamais. Pardon, mais